Religion du monde. Véronique Guémard.
Bonjour à toutes et à tous. Les persécutions religieuses ont connu une augmentation importante l'an dernier, notamment envers les communautés chrétiennes selon l'index publié en janvier 2025, mais aussi à l'encontre de musulmans en Inde par exemple. Cette tendance à la hausse est observée dans plusieurs régions, dont la zone sahélienne en Afrique. Je vous propose dans cette émission d'écouter des témoignages croisés du Nigeria, du Burkina Faso et d'Inde. Lecture du témoignage de Laurent Balma, prêtre du Burkina Faso, octobre 2024.
La première nous a semblé être une guerre de religion. Les terroristes arrivaient dans les villages, rassemblaient tout le village à la mosquée et tenaient des prêches du genre « Toutes les femmes et filles doivent être voilées. Les hommes doivent porter la barbe et des pantalons coupés. Le sport et les danses sont interdits. » Les églises et chapelles étaient les cibles privilégiées, les chrétiens et leurs pasteurs pourchassés, enlevés et massacrés. Dans cette période aussi, tout symbole ou représentation de l'État était considéré comme un symbole ennemi. Plusieurs commissariats de police, gendarmeries, mairies et écoles ont été attaqués et brûlés. En 2019, l'abbé Joël a été enlevé, et depuis nous n'avons plus aucune nouvelle de lui. Cette même année, le père César Fernandez, missionnaire salésien d'origine espagnole, a été tué à quelques encablures entre la frontière du Burkina et du Togo. Et je suis encore traumatisé par le souvenir de ce dimanche noir du 12 mai 2019, où l'abbé Siméon Yampa, ce jeune garçon que j'ai vu grandir depuis son petit séminaire de Kaya, a été assassiné avec cinq de ses fidèles alors qu'il célébrait l'Eucharistie à Dablo. La liste des assassinats des chrétiens est longue. Cette phase n'a pas fonctionné. Beaucoup de familles burkinabées regroupent des catholiques, des musulmans, des protestants et des adeptes de la religion traditionnelle. Comment pouvons-nous nous entretuer alors que nous sommes du même sang? C'est alors que les terroristes sont revenus avec une deuxième phase qui nous semblait être une guerre ethnique. Les Mossés contre les Peuls, les Gourmandchés contre les Peuls, etc., etc. Mais dans un sursaut nationaliste, des voix ont émergé pour dénoncer cette arnaque fabriquée pour briser toute une nation. Parmi elles, celle du cardinal Philippe Ouédraogo, alors archevêque de Ouagadougou, et le Dimas André, roi de Boussouma, et d'autres leaders religieux qui ont sillonné les zones sinistrées pour discuter de paix et de réconciliation. Nous sommes tellement peinés de voir notre pays, le Burkina Faso, pays si calme et réputé pour sa paix, se retrouver en seulement 10 ans martyrisé, déchiré. Cette troisième phase n'épargne personne. Chrétiens, musulmans, traditionnalistes, Peuls, Mossés, Gourounsi, Bissa, Gourmandché, Bobo, Sénoufo, Dagara, Lobi, ils tirent sur tout ce qui bouge.
Ils tirent sur tout ce qui bouge. Ce témoignage, le prêtre Laurent Balma l'a livré en novembre dernier auprès de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, une ONG qui recense les attaques à l'encontre des chrétiens dans le monde. Dans son rapport, l'ONG constatait une augmentation de ses actes. Laurent Balma est en France depuis 3 ans. Au Burkina Faso, il est prêtre du diocèse de Kaya, l'un des plus touchés par les attaques terroristes selon l'AED. Écoutez son témoignage.
Je m'appelle le père Laurent Balma. Je suis prêtre du diocèse de Kaya au Burkina Faso. C'est le centre nord, la région du centre nord. Et puis depuis 3 ans maintenant, je suis prêtre fidèle de Noum dans le diocèse de Saint-Denis en France, précisément à la paroisse de Bagnolet.
Alors vous-même, vous êtes né au nord du Burkina Faso?
Je suis né à Boussouma, Boussouma ce qui est le chef-lieu d'un des grands royaumes Mossi, donc du Burkina Faso, qui appartient au diocèse de Kaya, du centre nord.
Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de quand vous étiez enfant, au niveau des communautés, comment on se côtoie, quelle que soit la religion ou les croyances, il y a ce mélange?
Mes souvenirs sont des souvenirs extraordinaires de convivialité et de joie Je suis né donc dans une famille où on a à la fois des musulmans, des catholiques, des protestants et aussi ceux de la religion traditionnelle. Et nous partageons les mêmes espérances, les mêmes conditions de vie. Et c'était des souvenirs d'enfance, des moments remarquables en termes de convivialité. Et puis aussi, nous partageons tout en fait, les travaux, les soucis, les espoirs. Et encore, moi j'ai mon oncle qui est le grand frère de mon père, qui est musulman. Et lorsque c'est la Tabaski, la famille donc de mon oncle partage le repas avec tous les mamans, tous les gens du quartier pratiquement. Et aussi quand c'est Noël ou Pâques, mon père, ma mère, le repas est partagé à tous les mamans du quartier. Et on mange ensemble, on fraternise ensemble, on fait la fête ensemble. Et ça, ce sont des moments fabuleux dont je m'en souviens et qui actuellement, malheureusement, tend à s'effriter et c'est fort dommage.
Alors, ces souvenirs, ils vous ont forgé aussi, j'imagine, vous-même. Et peut-être aussi dans votre quête, qu'est-ce qui a fait que vous êtes engagé dans les ordres, donc, dans l'Église catholique au Burkina Faso?
Si c'est pour parler de ma vocation, aussi loin que mes souvenirs peuvent aller dans mon enfance, je n'ai pas eu une autre vocation que celle d'être prêtre. Parce que dès l'enfance déjà, avec les parents, je suis né dans une famille catholique pratiquante et on allait à la messe régulièrement, on ne manquait pas la messe du dimanche et puis la prière avait une place très importante dans la famille, le matin, le soir, et mon père était cultivateur, donc et quand au champ, à midi, au son de la cloche, on arrêtait pour dire l'Angélus. Et puis ensuite, on continuait à travailler. Tout cela a forgé un peu ma vocation. Et quand je suis rentré au séminaire, j'ai continué en restant solidement attaché à ma famille, à mon village, à tous ceux qui partagent, aussi bien catholiques que musulmans, les mêmes, voilà, mêmes conditions de vie, les mêmes valeurs, la même situation, et jusqu'à mon ordination. Et quand je suis devenu prêtre aussi, j'ai continué à collaborer avec à la fois mes paroissiens, et qui sont bien sûr catholiques, et aussi et avec les autres membres de la communauté musulmane, protestante, et voilà.
Vous êtes très attaché donc à votre village, à votre région, et aujourd'hui vous êtes prêtre donc de cette région, donc de ce diocèse de Kaya. Vous avez été ordonné prêtre dans ce diocèse?
Tout à fait, j'étais ordonné prêtre à Kaya. Et nous étions deux, c'était d'ailleurs la première fois que le diocèse de Kaya ordonnait deux prêtres à la fois pour le diocèse. Et après mon ordination, donc, l'évêque m'avait nommé comme vicaire à la cathédrale. Et je suis resté 4 ans à la cathédrale et c'était des moments fabuleux, des moments extraordinaires où j'ai d'abord appris la vie même du prêtre en milieu semi-urbain, mais aussi on avait des sorties dans des villages et on passait la journée avec les chrétiens, les catéchistes. Et ce qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est le soir avec le catéchiste du village, on passait de maison à maison pour voir les personnes âgées, les personnes malades. On apportait aussi écoute, réconfort et soutien. Et ça, c'était des moments inoubliables de mon sacerdoce.
C'est une région où il y a combien de catholiques, combien de musulmans? Enfin, c'est à peu près religion traditionnelle.
Oui, approximativement, à Kaya, on a sensiblement les 20% de catholiques, 50-60% de musulmans et une dizaine de pourcents aussi de la religion traditionnelle. Et tout cela, ça se passe vraiment dans une ambiance formidable. Voilà un peu cette échelle de valeur.
Dans l'histoire récente, les mouvements djihadistes qui se sont développés dans la région sont arrivés jusque dans votre région, dans votre diocèse. Vous vous souvenez du moment où ça s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé et quels sont vos souvenirs de ce moment-là?
Les premières attaques terroristes m'ont trouvé à Kaya quand j'étais directeur de la radio Notre-Dame, la radio diocésaine. Et ça a été des moments terribles pour nous de voir des gens qui s'en prennent à des populations, qui tirent aveuglément. Et nous ne savons pas pourquoi. Et cela nous a beaucoup meurtris et on porte beaucoup cette douleur-là de voir nos frères et nos sœurs tomber sous les balles assassines de ces gens-là qui s'en prennent à des populations sans qu'on ne sache pourquoi. Alors c'est vraiment une souffrance que nous portons et notre cardinal disait que ben écoutez, nous en tant que chrétiens nous ne pouvons pas tenir une arme pour tuer quelqu'un. L'évangile nous a appris l'amour de et c'est cet amour là qui nous tient et qui forge aussi notre personnalité en tant que chrétien par la prière. La prière c'est notre seule arme.
Ce sont des attaques aussi indiscriminées, donc ce n'est pas uniquement les catholiques, les musulmans sont très ciblés aussi, toutes les religions finalement, vous êtes tous ensemble dans cette souffrance.
La souffrance est collégiale, la souffrance est partagée par tout le monde. Quand ces terroristes arrivent, ils tirent sur tout le monde sans aucune distinction ni de religion ni de race. Et c'est ça qui nous étonne, qui nous... Voilà, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui. C'est la nébuleuse qui endeuille donc nos populations et puis toute notre région. Et pas seulement notre région. Bon, nous sommes au nord, bien sûr, mais nous entendons aussi à l'est, dans la boucle du Mouhoun, il y a aussi les attaques pratiquement pour les mêmes raisons.
Comment vous faites donc pour essayer de vous organiser, pour en venir en aide aussi aux populations qui sont attaquées, hein, qui sont parmi vous? Donc il y a une concertation avec toutes les autorités religieuses, des différentes religions, il y a une cohésion.
C'est ça notre force, parce que quand on est attaqué, on est en droit de se défendre. Et aussi, oui, les leaders religieux, je parle des catholiques, des protestants et des musulmans, et aussi les chefs traditionnels, les rois, se concertent régulièrement pour parler de paix et aussi trouver des moyens, des méthodes ou des solutions endogènes et face à cette situation. Parce que quand on est ensemble, on se serre les coudes, on peut ensemble trouver aussi des solutions, des voies et moyens pour sortir de cette grave crise sécuritaire.
Laurent Balma, vous disiez que quand même cette relation s'est un peu effritée à cause peut-être de la peur que suscitent ces attaques. Est-ce que finalement même ce dialogue qui date de toujours finalement dans cette région, aussi est mise à mal à cause de ces attaques? C'est compliqué?
Oui, je disais que ça s'est effrité parce que la peur a modifié le quotidien de nos populations. Et lorsqu'on n'est pas habitué à entendre des coups de feu, on n'est pas habitué à avoir des gens qui sont contre nous, par définition, disons, la culture même de notre identité est d'accueillir l'étranger, ouvrir la porte et recevoir l'autre qui vient sonner à notre porte. Maintenant, si il vient pas pour partager nos valeurs et tout, il vient vous chasser, vous tuer, et là c'est dramatique.
Donc il y a eu un épisode extrêmement violent en août 2024, notamment dans la région de Barça-Logo. Vous-même, vous avez encore de la famille aussi sur place. Vous avez des fidèles de votre paroisse. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté de ce qui s'est passé?
Barça-Logo est à 42 km de Kaya, le chef-lieu du diocèse, et c'est une des paroisses dynamiques de notre diocèse. Et ce qui s'est passé, bien sûr, est déplorable. C'est une attaque barbare sans précédent qui nous attriste absolument. Et face à cette situation, nous, en tant que chrétiens, c'est vraiment une grande et profonde tristesse et souffrance. Avant l'attaque, bien sûr, il y avait des alertes parce que c'était une zone quand même qui donnait sur la partie dure des présences terroristes, mais on n'était pas profondément traumatisé. Et maintenant, après l'attaque, évidemment, il y a eu des déplacés, mais aussi une partie de la population avec surtout l'appui de l'État et des forces de défense et de sécurité. Et il y a une renaissance de courage pour les populations qui restent encore. Donc nous vivons dans cette ambiance, dans ce climat, et nous voilà. En tout cas, ce que nous avons vu, moi personnellement, surtout je parle des chrétiens, qui se sont déplacés vers Kaya, se retrouvent dans des communautés, dans des petites communautés ecclésiales, pour continuer à vivre leur foi en espérance et puis aussi en solidarité avec les autres souffrances.
C'est important d'en parler. C'est important que ces messages soient entendus aussi. Qu'est-ce que vous attendez de ces appels?
Nous attendons principalement la prière de nos frères et sœurs du monde entier. Et nous attendons aussi qu'ils ouvrent les yeux pour voir un peu la souffrance qui est la nôtre et que aussi ils puissent nous aider dans la mesure où, évidemment, quand on quitte son pays, son village, sans rien emporter, tu perds déjà une partie de ta dignité. Et là, c'est une grande souffrance. Tu travailles durement pour gagner honnêtement ta vie et du jour au lendemain, tu perds tout, tu te retrouves à la merci, obligé de tendre la main pour vivre. Ça, c'est une grande souffrance. Et alors, nous demandons d'abord à tous les amis de prier pour nous et de nous aider à être vraiment des hommes dignes.
Merci beaucoup, Laurent Balma.
Je vous en prie.
Laurent Balma faisait référence au massacre de Barsalogho fin août 2024 qui a fait des centaines de morts et des milliers de déplacés qui ont convergé notamment vers Kaya, à une cinquantaine de kilomètres plus au sud. Depuis, plusieurs autres attaques se sont produites, certaines à l'encontre d'autres groupes, toutes religions confondues. Cette dégradation dans la région sahélienne préoccupe particulièrement l'AED, l'aide à l'Église en détresse, comme le détaille Amélie Berthelin, responsable de l'information.
Cette situation en fait, nous préoccupe particulièrement parce qu'il y a une montée du djihadisme et du terrorisme islamique. Les pays du Sahel, notamment le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, sont en proie à une montée vraiment très violente de ces persécutions. Donc on a tous les jours des témoignages de persécutions, de massacres, que ce soit au Burkina Faso encore tout récemment, où plus de 150 Burkinabés ont été tués dans un village très majoritairement chrétien. Au Nigeria aussi, on entend tous les jours des histoires d'enlèvements, de kidnappings, de massacres. Donc c'est une préoccupation très forte pour nous. Si on note que en fait, ces violences sont faites à toute la population, notamment quand un marché est attaqué, tout le monde est visé, que ce soit les musulmans, les adeptes des religions traditionnelles ou les chrétiens, on note quand même que les chrétiens sont plus ciblés que les autres, surtout dans les zones où ils sont minoritaires.
Pourquoi ils seraient plus ciblés?
Alors les chrétiens sont plus ciblés, il y a beaucoup de raisons différentes, mais il y a une volonté assez explicite de supprimer les chrétiens pour imposer un califat ou pour imposer une religion musulmane. Donc tous ceux qui n'adhèrent pas en fait à cette volonté-là sont persécutés, sont massacrés.
Et ce sont des zones d'accès très limitées. Il y a un certain nombre d'endroits où on ne peut plus aller. Quel est le lien que vous pouvez garder donc avec les personnes qui sont encore sur place?
Alors effectivement, on agit vraiment avec l'église locale parce qu'elle a une connaissance parfaite de la situation du pays. Donc je pense à un exemple très simple qu'on a fait, mais on peut acheter une moto à un prêtre qui ne peut plus rester dans son village parce que les prêtres sont visés tout particulièrement, parce que lorsque un groupe islamique tue un prêtre, il sait que derrière, il tue symboliquement toute une communauté en fait, et énormément de chrétiens qui vont être perdus s'ils n'ont plus leur curé, s'ils n'ont plus leur église. Donc dans certains endroits, les prêtres ne peuvent plus rester dans leur village. Du coup, ils passent d'un village à l'autre en moto. Ils vont aller, grâce à la moto, pouvoir célébrer une messe à des heures différentes. Parce que maintenant, dans certains villages, ils ne peuvent plus dire le dimanche à 11h, c'est la messe. Ils changent les horaires par mesure de sécurité. Et donc, grâce à cette moto, le prêtre va pouvoir passer dans les différents villages et rencontrer les populations, les encourager, les fortifier. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On soutient aussi beaucoup les réfugiés, les personnes déplacées dans les pays qui subissent des traumatismes. Et donc là, on va les accompagner psychologiquement pour les aider à vivre et à survivre. Parce que lorsqu'on a vu son enfant être massacré sous ses yeux ou son mari être tué à coups de machette, forcément, c'est extrêmement difficile de pouvoir continuer de vivre. Donc on soutient par exemple des religieuses au Burkina Faso qui organisent des sessions pour encourager, aider toutes ces personnes déplacées.
Il y a aussi les prêtres ou des religieuses qui sont enlevés. Donc c'est aussi une façon d'atteindre la communauté, là encore, économiquement.
Oui, alors dans toutes ces zones du Sahel, mais particulièrement peut-être plus encore au Nigeria, on a très régulièrement des histoires d'enlèvement de prêtres, de religieux, de religieuses. Certains sont libérés contre rançon, d'autres sont tués. Parfois même quand la rançon a été versée, ils sont quand même massacrés et tués. Donc la volonté derrière, c'est évidemment économiquement d'avoir de l'argent. Donc maintenant, les groupes terroristes, on le sait, sont extrêmement riches grâce à ces rançons, grâce à ces trafics d'êtres humains, au trafic de drogue qui circulent massivement dans toute cette région. Et puis donc, la volonté d'appauvrir la communauté religieuse et de la déstabiliser complètement et de générer une peur en fait partout, parce que personne ne se sent en sécurité nulle part.
En visite au Burkina Faso cette semaine, Mgr Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a prôné la diplomatie de la paix au nom de l'Évangile comme solution au conflit pour lutter contre le terrorisme et aider au développement. Ce constat d'une forte dégradation dans la zone sahélienne, Guillaume Guénec de l'ONG chrétienne Portes Ouvertes l'a aussi confié à notre consoeur Aram Beng lors de la publication de l'Index mondial de la persécution des chrétiens en janvier dernier.
Cette année, on observe que la persécution augmente dans le monde. On a 380 millions de chrétiens qui sont confrontés à des forts niveaux de persécution et de discrimination en raison de leur foi. Et cette augmentation est portée par une aggravation de la situation dans les pays en guerre civile. On pense au Yémen, au Soudan. Une aggravation de la situation pour les chrétiens aussi en Afrique subsaharienne, où un certain nombre de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda ou l'État islamique s'en prennent aux chrétiens. Et puis un tour de vis contre les églises en Asie centrale, dans des pays comme le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, on voit des actions qui sont prises contre les églises.
Au Nigeria, où plus de 53% de la population est musulmane et environ 45% est chrétienne, les attaques contre les communautés religieuses se sont multipliées depuis une quinzaine d'années, notamment à l'encontre des chrétiens. Ayuba Mutawal est pasteur depuis 32 ans. En décembre 2023, il a été témoin des massacres commis contre 26 villages de l'État du Plateau qui ont fait au moins 300 morts et des milliers de déplacés. C'est ce qu'ils ont appelé le Noël noir. Ayuba Mutawal a décrit à Aram Beng la situation actuelle au Nigeria lors de la présentation de l'Index mondial de Portes Ouvertes en janvier dernier.
Generally, it's the north, northern part of Nigeria, where we have more Muslims.
Les chrétiens sont persécutés généralement dans le nord du Nigeria, où se trouvent la plupart des musulmans. C'est dans le nord-est que se trouve le groupe terroriste Boko Haram. Et dans le nord-ouest, vous avez les bandits ou les milices. Et au milieu du nord, vous avez les Fulani. Dans tous les cas, ils ciblent les chrétiens et s'attaquent généralement d'abord aux églises et aux chrétiens.
Est-ce qu'on voit un mouvement d'exode ou de fuite des chrétiens parce qu'ils ne peuvent plus vivre là-bas à cause de cette persécution?
Alors, dans le nord, il y a encore des églises et des gens peuvent quand même rester. Mais dans la partie centrale du nord, où les Fulani ont attaqué massivement, des chrétiens ont dû quitter leur village puisque des communautés entières ont été attaquées et les églises brûlées. Là-bas, les gens ont été contraints à l'exode.
Come into the city.
Il y a 2 ans, John Swakor, un autre prêtre du Nigeria qui vit actuellement en France, avait lui aussi témoigné de la situation dans son pays. Écoutez.
En 2009, le groupe islamique Boko Haram est apparu à Maïdougouri et dans les communes environnantes. Cette secte prétend que l'éducation occidentale est mauvaise. Le christianisme étant issu du monde occidental, il est également considéré comme mauvais et doit donc être éliminé. Depuis lors, l'Église souffre et est victime des attaques terroristes. Des maisons, des magasins et des bureaux appartenant aux chrétiens sont pris pour cible et détruits. Les pires des attaques ont eu lieu en 2014. Boko Haram a capturé la quasi-totalité des membres de notre diocèse. Ces derniers ont été contraints de fuir leurs maisons ancestrales. Le nombre de catholiques déplacés dépasse largement les 100 000. Beaucoup d'entre nous se souviennent encore de l'enlèvement des 270 écolières de Chibok par les terroristes cette même année. Un peu moins de la moitié d'entre elles sont revenues. Léa, écolière chrétienne de Dapchi, a été enlevée par les terroristes il y a quelques années. Elle n'a jamais été libérée. La plupart des filles enlevées par les terroristes ont été mariées de force à des hommes de Boko Haram. Nous avons également des témoignages de filles et de femmes qui ont miraculeusement échappé aux griffes de ces lions. Beaucoup des jeunes hommes capturés par les terroristes ont été enrôlés de force dans leur armée. Jusqu'à présent, les chrétiens persécutés se sont déplacés dans d'autres régions du Nigeria et même au Cameroun.
Et nous avons rencontré ce prêtre du Nigeria, John Swakor. Aujourd'hui, il est en mission en France, curé dans le diocèse de Montpellier.
Je suis du Nigeria et de l'état de Benue. Ça, c'est le centre-est du pays, qu'on appelle le Middle Belt. Notre population et la diversité des ethnies et des confessions devait être une richesse pour nous. Pas un lieu d'affrontement ou de suppression, d'oppression. Des peuples. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit pour les intérêts particuliers, je pouvais dire politiques et économiques, on n'arrive pas à mettre tout le monde ensemble pour faire évoluer le pays positivement. Qu'il y a des attaques coordonnées contre les chrétiens, qu'il y a l'arrachement des terres des chrétiens, c'est inadmissible. Que même s'il n'y a pas des attentats où les gens sont assassinés dans les villages et sous silence du gouvernement qui fait semblant d'agir avec des arrestations fantômes sans poursuite, c'est aberrant pour nous de voir que notre pays est devenu ainsi un pays qui ne respecte plus la voix des citoyens comme il faut.
Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si on parle des groupes djihadistes, donc Boko Haram ou des différentes milices qui se sont développées, les attaques sont finalement contre toute la population. Est-ce que vous voyez des attaques particulières contre les chrétiens ?
Les attaques sont contre les musulmans et chrétiens, mais plus particulièrement ciblant les communautés chrétiennes. On a plus des attaques, je peux dire sans oser faire des erreurs, qu'il y a au moins 85% des attaques sont dans les communautés où il y a la majorité chrétienne, les villages où il y a beaucoup de chrétiens.
Vous-même, John Swakor, vous êtes en France depuis une dizaine d'années. Vous êtes d'un État qui s'appelle l'État de Benoué, un État à grande majorité chrétienne. Qu'est-ce qui vous a fait partir et qu'est-ce que vous avez pu constater ces dernières années dans cet État, l'État de votre enfance ?
D'abord, je ne suis pas parti parce qu'il y a eu des problèmes. J'ai été envoyé en mission en France à la demande des évêques de France pour notre congrégation qui s'appelle les Missions africaines de Lyon. Donc je suis missionnaire d'origine. Mais dans mon état, depuis un temps, on a constaté aussi qu'il y a eu beaucoup de villages touchés par ce phénomène de djihadisme pour pouvoir prendre leurs terres. Il y a eu des prêtres tués au cours de la messe. Un qui a été fusillé, l'autre avait été égorgé il y a 4 ans dans mon état. Il y a plus d'un million 700 personnes qui sont dans les camps de déplacés dans mon état, qui appartient à l'état. Parce que leurs villages ont été visités à plusieurs reprises. Ceux qui ont survécu ont pu fuir pour aller vers la capitale ou d'autres parties de l'état pour se regrouper dans un camp. Et un camp a été même attaqué l'année dernière, où il y a plusieurs personnes, une dizaine de personnes tuées dans ce camp de réfugiés.
Attaqué par qui ?
Attaqué par les milices Peul. C'est surtout des milices Peul. On pointe des doigts toujours avec des traces des milices Peul qui viennent pour le pâturage de leurs bœufs, mais la nuit, ça devient autre chose.
Vous disiez donc qu'il n'y avait pas de problème d'entente avec les Peuls jusque-là. Il y avait une cohabitation plutôt harmonieuse.
Voilà, je disais ça parce que dans mon enfance, on vivait avec les Peuls sans problème. On connaissait les Peuls comme les gens qui promenaient les bétails. Les femmes nous vendaient du lait qu'on prenait. Et même à mon ordination, il y a plus de 18 ans, il y a une femme Peul qui est venue chez moi et en me voyant, disait « Oh, c'est lui qui a été ordonné parce que je viens ici, je ne le vois pas. C'est un étranger. » Pourtant, c'était chez moi. Donc, on vivait bien avec le Peul. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des Boiries, on a constaté qu'il y a eu des Peuls qui ont été emmenés même du Mali, de la Guinée et du Niger pour terroriser le pays. On trouvait les Peuls un peu agitants vers le nord, plus au nord. Benoué, qui est encore plus au sud du nord, ne connaissait pas ce problème. Et on ne connaissait pas les Peuls qui se promenaient avec des fusils. On avait les Peuls qui avaient des cannes pour leur bœuf. Aujourd'hui, on voit les Peuls avec des fusils. Et le gouvernement ne voit rien qu'un Peul ou bien des Peuls portent des fusils à l'intérieur du pays, même si la porte d'armes est interdite dans la loi. On ne voit rien avec les Peuls qui se promènent. Et même, il y a des associations reconnues par l'État pour protéger les droits des Peuls qui sortent clairement pour dire que c'est parce que leur bétail a été attaqué, c'est pourquoi il y a eu des représailles. Et personne n'a jamais arrêté ceux qui réclamaient les atroces qu'on voit.
Mais quel est l'objectif, selon vous, de ces milices et donc de ces attaques récurrentes dont vous parlez dans votre État qui est effectivement un État à majorité chrétienne ?
Je peux dire qu'il y a les doubles faces de ces attaques. Il y a l'affaire religieuse, il y a aussi une affaire économique. Affaire religieuse, que tout le monde, par peur, se convertisse en islam. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, que semer la terreur, c'est pour chasser aussi les gens de leur terre et prendre leur terre. Et faire ce qu'il veut avec la terre. Donc ça, c'est la deuxième phase de ces attaques qu'on voit aujourd'hui, surtout dans l'état de Benoué, de Nasrawa, des plateaux. Sachant aussi que nous sommes sur un terrain qui est très riche en sous-sol. Aujourd'hui, on voit les mines clandestines qui apparaissent à Benoué pour le lithium et d'autres minéraux qu'on ne savait pas qui existaient. Donc c'est aussi des tactiques pour aussi chasser les gens, prendre leur terre et faire ce qu'on veut avec ça.
Pour Amélie Berthelin, en charge de la communication de l'AED, l'aide à l'église en détresse, il était important de faire entendre ce témoignage du prêtre John Swakor.
Ce qui est extrêmement intéressant dans ce témoignage du père John Swakor, c'est que lui-même en fait, vient d'un État qui est majoritairement chrétien, ce qui n'est pas le cas de tout le pays, et qu'en fait il a vu cette évolution, vraiment la venue des djihadistes et des terroristes au fur et à mesure des années qui ont complètement changé le visage de son pays. Lui, il a grandi avec des musulmans, avec des peuls, et tout se passait très bien. Et autrefois, il y avait une amitié entre musulmans et chrétiens. Et maintenant, cette amitié-là, les terroristes, en fait, cherchent à la briser. Les terroristes cherchent à monter les chrétiens contre les musulmans pour, en fait, semer le chaos, parce que le chaos permet, après, la profusion de tous les trafics et d'enrichissement souhaitable.
Et d'accaparement des terres.
Et d'accaparement des terres aussi, parce qu'évidemment, les peuls descendent de plus en plus pour récupérer des terres, pour faire fructifier encore plus leurs affaires.
Le prêtre John Swakor a aussi perdu des proches dans ces attaques djihadistes, qui se sont multipliées ces dernières années dans la région de Benoué, dont il est originaire.
Je connais un ami qui a été enlevé. Je connais des prêtres qui ont perdu leur vie dans l'état de Kaduna. Et je connais les paroisses incendiées dans l'état de Kaduna où j'avais travaillé auparavant, où un séminariste avait perdu sa vie parce qu'il n'a pas pu échapper quand les deux prêtres avaient fui dans la nuit. Donc j'en connais.
Et vous arrivez à discuter avec, par exemple, des imams, des mosquées, avec justement des représentants musulmans qui subissent eux aussi des attaques, mais avec lesquels peut-être il y a un dialogue.
Quand j'ai travaillé dans l'état de Kaduna, au sud de l'état de Kaduna, on avait souvent des rencontres avec les chefs musulmans. Il y a eu des dialogues. On sait qu'il y a une petite partie des musulmans qui subissaient aussi ces violences parce qu'ils résistaient aux radicalistes de faire les choses sur leur territoire. Mais souvent, le dialogue qui s'arrête au niveau des dirigeants ne porte à rien. Il faut des dialogues qui touchent la base. Et la base, c'est aussi de voir le problème de la pauvreté qui touche beaucoup de ces jeunes qui sont attirés par les promesses de financement qui viennent de l'extérieur et qui font recruter ces jeunes dans la violence.
Aujourd'hui, quel est votre appel ?
Moi, je crois que le Nigeria, en tant qu'un pays riche en diversité, riche en ressources naturelles, riche en ressources humaines, pouvait faire mieux. Notre grand problème, que tout le monde connaît, c'est la corruption, qui nous fait ne plus voir clair, on est dans le flou. Et si nous avons des problèmes de religion, ce n'est pas un problème des petits gens, c'est un problème des élites qui sont dans un phénomène qu'on appelle paranoïa dictatoriale, c'est-à-dire qu'ils sont là pour préserver leurs intérêts à tout prix, même s'il faut utiliser l'islam ou employer l'islam pour faire leur volonté, ils sont prêts à le faire.
Donc c'est pour vous une instrumentalisation du religieux pour en fait d'autres objectifs.
Bien sûr, bien sûr. Au Nigeria, oui, bien sûr. On pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux.
Ce qu'on note à l'AED depuis quelques années, c'est vraiment un accroissement de cette zone terroriste djihadistes en partie, je dis en partie parce que derrière les terroristes, il y a toutes sortes de groupes, dont certains sont djihadistes avec une volonté très claire d'éliminer les chrétiens. Et donc on voit que la proportion est de plus en plus grosse. Donc on a toute cette zone qui grossit, qui descend de plus en plus bas pour atteindre la mer. Donc il y a une volonté de certains d'établir un califat islamique avec l'imposition de la charia et d'éliminer toute trace de chrétiens. Et derrière, ces groupes-là sont financés par d'autres pays qui peuvent être la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Il y a des trafics d'armes dans tous les sens et énormément de corruption, plus des États qui sont faibles, avec des coups d'État réguliers, on l'a vu toutes ces dernières années. Donc tout ça profite à des groupes terroristes. C'est ce qu'on dénonce parce que en fait, les chrétiens se retrouvent victimes de cette pauvreté, victimes de ces attaques. Et en fait, ils fuient en masse et ils sont en train de disparaître de certaines régions. Donc là, que ce soit au Nigeria ou au Burkina Faso, il y a des régions entières où les chrétiens ne peuvent plus vivre, tout simplement. Ils ont été soit massacrés, soit tués, soit chassés de leurs terres. Donc là, au Burkina Faso, on a environ 40% du territoire qui est pris par les terroristes. Et derrière, il faut absolument qu'ils soient aidés quoi, pour survivre.
Donc un appauvrissement qui concerne pas seulement les chrétiens, mais également les musulmans, enfin tous ceux qui vivent sur ces territoires qui sont pris par ces groupes armés.
Oui, il y a une réelle volonté d'appauvrir en fait ces communautés, toutes celles qui n'adhèrent pas finalement à cet islam radical, que ce soit des musulmans, des adeptes des religions traditionnelles ou les chrétiens. En fait, on note dans ces attaques, c'est très vicieux parce que non seulement les terroristes arrivent, ils tuent comme ça à bout portant particulièrement les hommes, mais tous ceux qu'ils voient. Ensuite, parfois, ils vont même dans les magasins, dans les maisons, là où se sont cachés les gens pour finir de les tuer. Et après, ils brûlent les terres, ils brûlent les maisons pour être sûr qu'il n'y ait pas de récolte possible. Et lorsque les déplacés osent revenir quelques semaines après sur leurs terres, parce qu'en fait, c'est là où ils ont semé tout leur travail, en fait, s'ils n'ont pas de récolte, ils n'ont plus rien pour vivre, et bien là, ils risquent de se faire à nouveau attaquer, où ils s'aperçoivent que tous leurs champs ont été brûlés. Et donc, en fait, ils n'ont plus aucune récolte, plus aucun travail, plus rien pour vivre. Donc, ils ont tout perdu. Et donc ça participe largement à cette pauvreté endémique qui s'installe de plus en plus.
Depuis quelques jours, en ce mois de février 2025, des Nigérians qui avaient fui les violences djihadistes et qui s'étaient réfugiés au Tchad il y a 10 ans sont en train de revenir chez eux, dans la région de Maïdougouri. Une bonne nouvelle, mais pour l'instant, seuls quelques milliers ont fait ce choix, alors que plus de 340 000 avaient fui vers le Niger voisin surtout, mais aussi vers le Tchad et le Cameroun à l'époque. Dans d'autres parties du monde, ce sont des musulmans qui peuvent subir aussi des persécutions religieuses. C'est le cas en Inde, à la faveur de la montée du nationalisme hindou, prôné par le Premier ministre Narendra Modi, qui voudrait faire de l'Inde une nation hindoue. Lors de la campagne électorale en 2024, le Premier ministre Narendra Modi répétait plusieurs fois que si l'opposition arrivait au pouvoir, les musulmans allaient voler les bijoux des femmes hindoues et voler des places d'université ou d'emplois publics réservés aux basses castes d'hindous. Des publicités du BJP, le parti de Narendra Modi, ont repris ses propos islamophobes de manière choquante. Ce discours suit une tendance grandissante de diabolisation des musulmans par le parti nationaliste hindou et qui fait grandir la défiance entre les communautés. Nadim est un jeune travailleur social musulman de la ville de Lucknow, la capitale du plus grand état du pays, l'Uttar Pradesh, dirigé par le BJP. Écoutez son témoignage recueilli en 2024.
Depuis l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir en 2014, j'ai vu la croissance des discriminations envers les musulmans. Je suis choqué de voir que des amis hindous qui affirmaient être mes frères me disent aujourd'hui « Tu es musulman, tu crois donc au djihad ? Et tu manges de la vache, non ? Vous ne me croirez pas, mais j'ai 34 ans, je n'ai jamais vu personne cuisiner de la vache. » Ce gouvernement fournit toutes les aides de manière égalitaire, c'est vrai. Il n'y a pas de discrimination officielle. Mais ses agents orchestrent la haine sur les réseaux sociaux, ce qui accentue les préjugés religieux et divise les communautés. C'est grave, car je connais des musulmans qui ne peuvent plus trouver de maison ou de travail à cause de ces discriminations. Et ça va plus loin. J'organise des campagnes de dons du sang. Et depuis un an et demi, des gens m'appellent pour recevoir du sang, mais quand ils entendent que je suis musulman, ils me disent qu'ils n'en veulent plus, qu'ils préfèrent du sang d'un hindou. C'est fou. Ces personnes ont un besoin désespéré de sang, mais elles préfèrent s'en priver plutôt que d'en accepter d'un musulman. Hindu religion, you really need blood, and you
are discriminating that you don't need from a Muslim. Le BJP soutient que tous les Indiens sont des hindous et que les musulmans doivent reconnaître ces dieux hindous s'ils veulent rester vivre en Inde. Cette mouvance nationaliste hindoue cherche à diaboliser les musulmans en les présentant comme des étrangers descendants des envahisseurs moghols qui ont régné sur le sous-continent au Moyen-Âge. Le gouvernement réécrit les livres scolaires d'histoire en effaçant toutes les références aux apports des moghols musulmans à l'histoire de l'Inde et en ne gardant que les chapitres les plus sanglants. Ziaou Salam est journaliste, écrivain musulman, et il s'élève contre cette réécriture de l'histoire dans un livre paru l'an dernier, « Being Muslim in Hindu India, être musulman dans l'Inde hindoue ».
This book is an attempt to raise a voice for the idea of India.
J'ai écrit ce livre pour élever ma voix au nom de l'idée de l'Inde. Les musulmans sont une part cruciale de cette idée de l'Inde. Contrairement à ce que ce gouvernement aimerait nous faire croire, l'islam est arrivé en Inde par une transmission naturelle et ensuite par l'arrivée de soufis, et non par des invasions. La première mosquée a été construite en Inde en 622, 10 ans avant le décès du prophète. Qui a envahi l'Inde à cette époque? L'islam est arrivé par les marchands qui venaient de Bahreïn et d'Oman, entre autres. Un roi hindou de la région du Sindh a construit une mosquée car il faisait des affaires avec ses marchands du monde arabe. Donc l'Inde est mater, comme elle est celle de tout autre Indien. Nos dirigeants ne sont pas à l'aise avec l'aspect multiculturel de notre passé et de notre présent. Ils veulent déposséder les musulmans de leur identité et c'est pour cela qu'ils mettent tellement d'efforts à réécrire notre histoire médiévale. L'histoire n'est pas noire ou blanche, elle est grise. Ce gouvernement veut faire une chose, nous diviser sur la base de nos religions.
On the basis of religion. En 2024, le Premier ministre Narendra Modi a finalement été réélu, mais avec une majorité moins importante qu'auparavant. Peut-être un signe sur l'instrumentalisation de la religion qui ne peut pas répondre à toutes les attentes de la population. Dans son dernier rapport présenté en 2024, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la liberté de religion insistait sur un point essentiel selon elle, la corrélation qui existe entre le droit à la paix et la liberté de religion ou de conviction. La paix, écrit-elle, doit être fondée sur le respect de la liberté de religion ou de conviction et sur le respect de la diversité des religions et des convictions. C'est la fin de cette émission réalisée par Stéphane Desfossés que vous pouvez réécouter en podcast sur RFI.fr, l'appli Pure Radio ou les réseaux sociaux à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite, le journal sur RFI.